Le magnétiseur, deuxième partie. Mon ami Alban connut à l'université de J un jeune homme dont l'extérieur avantageux séduisait tout le monde au premier abord et qui se voyait accueilli partout avec bienveillance et empressement. L'analogie de leurs études, consacrées à la médecine, et la circonstance de leur réunion chaque matin dans la salle des cours où leurs ailes assidues les amenaient tous deux toujours les premiers, établirent bientôt entre eux des relations intimes, et peu à peu ils furent liés de l'amitié la plus étroite. Car Théobald, ainsi s'appelait le jeune homme, joignait au meilleur caractère l'âme la plus expansive, mais chaque jour se développait en lui davantage une susceptibilité excessive et une imagination rêveuse, voisine d'une molle langueur, lesquelles, dans ce siècle positif, qui, tel qu'un lourd géant bardé de fer, marche en avant sans se soucier de ce qu'il broie sur son passage, paraissait si mesquine et si efféminée que la plupart en faisaient un sujet de raillerie. Alban seul, indulgent pour l'âme tendre de son ami, ne dédaignait pas de le suivre dans ses petits jardins fantastiques tout fleuris, quoiqu'il s'appliquât sans cesse à le rappeler aux rudes tempêtes de la vie réelle et à susciter ainsi les étincelles de force et de courage que couvait peut-être le fond de son âme. C'était un devoir qu'il était d'autant plus jaloux de remplir que cette époque de la vie de Théobald lui paraissait la seule propice pour réveiller et vivifier en lui cette énergie indispensable à l'homme quand il lui faut opposer une résistance stoïque aux coups inopinés du malheur, pareils à l'éclair qui jaillit tout à coup d'un ciel serein. Le genre de vie de Théobald était du reste entièrement conforme à son caractère simple et naïf, et restreint dans un cercle tout personnel. Il comptait, après avoir terminé ses études et acquis le grade de docteur, retourner dans sa ville natale, y épouser la fille de son tuteur, avec qui il avait été élevé, car il était orphelin, et ayant devant lui la jouissance d'une fortune considérable, ne vivre que pour lui-même et pour son art, sans s'adonner à la pratique. Le magnétisme animal, nouvellement remis en discussion, captivait entièrement son esprit, et après avoir étudié avec ardeur, sous la direction d'Alban, tout ce qui avait été écrit sur la matière, après avoir lui-même constaté de nombreuses expériences, il en vint bientôt à répudier toute espèce de médecine physique, comme contraire à la pure idée de l'influence immatérielle des forces actives de la nature, ce qui distingue le système du chevalier Barberin, analogue à celui de l'ancienne école spiritualiste. À peine Otmar eut-il prononcé le mot de magnétisme que la figure de Bickert eut une contraction nerveuse, d'abord imperceptible, ensuite plus marquée, et qui envahit en fin crescendo tous les muscles, de sorte que une grimace des plus bouffonnes se dessinant en manière de fortissimo sur sa physionomie, le baron, placé en face de lui, était prêt de partir d'un éclat de rire, lorsque Bickert se leva, faisant mine de vouloir prendre la parole. Hotman s'empressa de lui présenter un verre de punch que le peintre avala avec une pantomime ironique, et Otmar poursuivit ainsi son récit. Alban avait été d'abord à donner de corps et d'âme au mismérisme, et cela pendant que la doctrine du magnétisme se propageait, sans aucun retentissement encore, de côté et d'autre. Il était même partisan des crises violentes que Théobald rejetait avec horreur, par suite de discussions variées, résultat des opinions différentes des deux amis sur cette matière. Alban, qui ne pouvait nier l'évidence de plusieurs expériences faite par Théobald, et qui cédait involontairement aux séduisantes hypothèses de celui-ci sur l'influence purement psychique, se convertit peu à peu au magnétisme rationnel et devint enfin un sectateur décidé de la nouvelle école qui réunit les deux méthodes à l'instar de celle de Puységur. Mais Théobald ordinairement si complaisant à se soumettre aux convictions étrangères, ne se départit pas le moins du monde de son système et persista opiniâtrement à rejeter toute médecine physique comme superflue. Toute l'ambition de Théobald, il voulait par conséquent y consacrer sa vie, tendait à approfondir autant que possible les mystérieux phénomènes de l'influence psychique et à devenir, par son application infatigable et par une complète indépendance d'idées, un digne élève de la seule nature. Dans cette vue, la vie contemplative à laquelle il se dévouait devait, comme une espèce de sacerdoce, le sanctifier par une série d'initiations de plus en plus élevées, jusqu'à ce qu'il lui fût permis de pénétrer dans le sanctuaire intime du grand temple d'Isis. Alban, qui avait une confiance sans bornes dans les dispositions naturelles de son ami, l'encouragea dans son projet. Et lorsqu'enfin Théobald, reçu docteur, prit congé de lui pour retourner dans sa ville natale, le dernier mot d'Alban fut qu'il eût à rester fidèle à ce qu'il avait entrepris. Peu de temps après, Alban reçut de Théobald une lettre dont le style désordonné témoignait du désespoir, du bouleversement intérieur qui s'était emparé de lui. Le bonheur de sa vie, écrivait-il, était à jamais détruit. Il ne lui restait plus qu'à partir pour la guerre, puisque c'était là qu'était allée la jeune fiancée qu'il chérissait en délaissant sa paisible demeure, et la mort seule pouvait le délivrer des tourments affreux qu'il endurait. Alban ne prit ni repos ni trêve, il partit sur le champ pour se rendre auprès de son ami, et après bien des efforts perdus, il parvint enfin à rendre à son esprit un certain degré de tranquillité. La mère de la jeune fille aimée de Théobald apprit à Alban que, durant le séjour passager d'un corps de troupes étrangères, un officier italien avait été logé chez eux. Il devint au premier aspect éperdument amoureux de sa fille et lui fit la cour avec cet excès d'ardeur qui caractérise sa nation. Il était doué en outre de tous les agréments qui captivent le cœur des femmes, de sorte qu'il éveilla en peu de jours dans le cœur de la jeune fille une passion telle que le pauvre Théobald fut complètement oublié et qu'elle ne vivait et ne respirait plus que pour l'officier italien. Mais il fut obligé de suivre l'armée. Dès lors, un trouble funeste s'empara de la pauvre jeune fille qui, ayant sans cesse devant elle l'image de son bien-aimé, croyait le voir couvert de blessures dans d'horribles combats, renversé à terre et mourant son nom sur les lèvres, de telle sorte qu'un véritable dérangement de sa raison l'empêcha de reconnaître le malheureux Théobald qui arrivait tout joyeux de l'espoir d'embrasser enfin son épouse chérie. Dès qu'Alban fut parvenu à rappeler Théobald à la vie, il lui confia le moyen infaillible qu'il avait conçu pour lui rendre le cœur de sa bien-aimée. Et Théobald trouva le conseil d'Adam tellement conforme à sa conviction intime qu'il ne douta pas un seul instant de son heureux succès. Il suivit donc aveuglément tout ce que son ami lui prescrivit dans son intérêt. « Je sais, Bickert, » dit Otmar en s'interrompant, « ce que tu voudrais bien dire. Je compatis à ta peine et rien n'est plus amusant que le désespoir comique avec lequel tu saisis le verre de punch que t'offre Maria si gracieusement. Mais tais-toi, je t'en prie, ton sourire aigre-doux est la meilleure des réflexions et vaut mieux que toutes les phrases que tu pourrais imaginer qui ne feraient que gâter l'effet de mon récit. Ce que j'ai à vous dire, du reste, est si admirable et si touchant que la contagion du plus puissant intérêt te gagnera toi-même, malgré toi. Ainsi, fais attention, et vous, mon bon père, vous verrez que je tiens rigoureusement ma parole. » Le baron ne répondit que par un significatif. Maria regardait Otmar en face, les yeux grandement ouverts, et sa charmante petite tête appuyée sur sa main, de sorte que ses blonds cheveux ondoyaient sur son bras en boucles abondantes. Otmar reprit. Si les journées de la jeune fille étaient agitées et orageuses, ses nuits étaient tout à fait terribles. toutes les apparitions funestes dont elle était tourmentée prenaient un caractère plus décidé, plus effrayant. Elle appelait d'une voix déchirante son bien-aimé, et elle semblait, au milieu de 1000 sanglots étouffés, exhaler elle-même son âme auprès de son cadavre sanglant. À l'heure de la nuit, où ses crises terribles étaient les plus intenses, Théobald se fit conduire près du lit de la jeune fille par sa mère. Là, il s'asseyait et dirigeait sa pensée sur elle avec toute l'énergie de la volonté, en la regardant d'un œil fixe et infatigable. Quand elle eut subi plusieurs fois cette épreuve, l'impression de ses rêves parut devenir plus faible, car le ton de voix passionné avec lequel elle prononçait auparavant le nom de l'officier n'avait plus cette expression qui pénétrait au fond du cœur, et de profonds soupirs venaient soulager fréquemment sa poitrine oppressée. Théobald, ensuite, portant sa main sur la sienne, l'appela doucement, tout doucement, par son nom. L'effet ne se fit pas attendre. Elle répéta encore le nom de l'officier, mais avec une hésitation marquée. Il semblait qu'elle cherchât à se rappeler chaque syllabe, chaque lettre, comme si une pensée étrangère fût venue traverser sa première illusion. Bientôt après, elle ne dit plus rien. Il semblait seulement, au mouvement de ses lèvres, qu'elle voulait parler, mais qu'elle en était empêchée par une certaine impression extérieure. Cela s'était déjà répété plusieurs nuits de suite. Alors Théobald commença, en tenant ses mains serrées dans la sienne, à parler à voix basse et par phrases interrompues. C'étaient des allusions au temps lointain de leur enfance. Tantôt, il parcourait en sautant avec Augusta. Ce n'est qu'à présent que le nom de la jeune fille me revient à la mémoire. Le spacieux jardin de l'oncle et cueillait pour elle les plus belles cerises en montant au haut des arbres, car il s'arrangeait toujours pour lui réserver les meilleures choses à l'exclusion des autres enfants. Tantôt, c'était l'oncle lui-même qui l'obsédait des plus pressantes prières jusqu'à ce qu'il obtînt le grand et beau livre d'images plein des costumes de tous les peuples. Alors, les deux enfants, agenouillés ensemble sur un fauteuil, penchés sur la table, feuilletaient le volume. Il y avait à chaque page un homme et une femme représentés au milieu d'un site de leur patrie, et c'était toujours Théobald et Augusta. Ils désiraient être ainsi seuls dans les mêmes contrées étrangères, vêtus de ces costumes extraordinaires, et pouvoir jouer avec les belles fleurs et les belles plantes. Quel fut l'étonnement de la mère d'Augusta lorsqu'une nuit, celle-ci se mit à parler en entrant tout à fait dans les idées de Théobald. Elle aussi était redevenue la jeune fille de 7 ans, et ils continuaient alors tous deux d'un commun accord leurs jeux imaginaires. Bien plus, Augusta rappela d'elle-même les circonstances les plus caractéristiques de leurs années d'enfance. Elle était naturellement très violente et se révoltait souvent avec emportement contre sa sœur aînée, qui, du reste, vraiment méchante par caractère, se plaisait à la tourmenter gratuitement, ce qui occasionnait entre elles maintes scènes tragi-comiques. Ainsi, une fois, les trois enfants étaient assis ensemble durant une soirée d'hiver, et la sœur aînée, de plus mauvaise humeur que jamais, taquinait la petite Augusta avec tant d'obstination que celle-ci pleurait de colère et de chagrin. Théobald s'occupait, suivant son habitude, à dessiner toutes sortes de figures qu'il savait ensuite expliquer assez sensément. Afin d'y mieux voir, il voulut moucher la chandelle, mais par mégarde il l'éteignit. Alors Augusta, de profiter de la circonstance et d'appliquer à sa sœur aînée, en revanche de ses injustes caprices, un solide soufflet. L'enfant court aussitôt, en pleurant et en criant, auprès de son père, l'oncle de Théobald, et dénonce celui-ci comme l'ayant frappé après avoir éteint la chandelle. L'oncle accourt et reproche à Théobald son odieuse méchanceté. Celui-ci, quoiqu'il connût bien la coupable, n'opposa aucune dénégation. Augustin se sentit secrètement déchiré de douleur lorsqu'elle entendit accuser Théobald d'avoir éteint la chandelle exprès avant de frapper pour pouvoir rejeter le délit sur son compte. Mais plus elle se désolait, plus l'oncle s'efforçait de la rassurer en lui disant que le vrai coupable était découvert et toute la ruse du méchant Théobald déjouée. Enfin, lorsque l'oncle se mit en devoir de procéder au dur châtiment, son cœur se brisa, elle parla, elle avoua tout. Mais l'oncle ne prit cet aveu que pour l'effet de l'extrême attachement de la jeune fille pour son cousin, et toutefois la présomption de l'entêtement de Théobald, qui, plein d'un véritable héroïsme, se trouvait heureux en ce moment de souffrir pour Augusta, lui valut une cruelle et sanglante correction. Le désespoir d'Augusta fut sans bornes. Toute la violence de son caractère, toutes ses manières impérieuses avaient disparu. Le généreux Théobald devint pour elle un maître absolu, auquel elle se dévoua de son plein gré. Il pouvait disposer, suivant son caprice, de ses joujoux, de ses plus belles poupées, et tandis qu'autrefois, il était obligé d'acheter le simple droit de rester auprès d'elle, en allant récolter des feuilles et des fleurs pour sa dinette, c'était elle maintenant qui se trouvait trop heureuse de le suivre à travers les broussailles où il galopait sur son vaillant cheval de bois. Mais autant était devenu passionné l'attachement d'Augusta pour Théobald, autant il semblait que l'injuste traitement qu'il avait subi pour elle eût enflammé le cœur de celui-ci, et son affection pouvait presque se comparer à l'amour le plus ardent. L'oncle remarqua ce double changement, mais ce ne fut que plusieurs années après, lorsqu'il apprit à sa grande surprise la vérité de ce qui s'était passé, qu'il vit clairement à quel point les deux enfants avaient ressenti l'un pour l'autre un véritable et profond amour. Et il approuva alors de grand cœur leur engagement mutuel de rester étroitement unis toute leur vie. Cet événement dramatique de leur enfance devait servir une seconde fois à réunir l'heureux couple. Augusta commença la représentation de cette scène au moment où son père arrivait plein de colère, et Théobald, de son côté, ne manqua pas de jouer adroitement son rôle. Jusqu'alors, Augusta se montrait, dans le jour, silencieuse et chagrine. Mais le matin qui suivit cette nuit-là, elle fit à sa mère la confidence inattendue que, depuis quelque temps, elle rêvait vivement de Théobald et qu'elle s'étonnait qu'il ne revînt pas, ou du moins n'écrivit pas. Son désir de le revoir s'accrut chaque jour davantage, et alors Théobald n'hésita pas plus longtemps à paraître devant Augusta comme s'il fût arrivé immédiatement, car il avait évité soigneusement de se montrer depuis le jour où elle ne l'avait pas reconnu. Augusta l'accueillit avec les transports de l'amour le plus vif. Bientôt après, la voix, en répandant un torrent de larmes, qu'elle lui avait été infidèle, et comment un étranger était parvenu, sans qu'elle sût comment, à le chasser de son souvenir et à la faire, pour ainsi dire, renoncer à sa propre nature, sous l'influence irrésistible d'une puissance inconnue. Mais l'image consolante de Théobald, qui était venu remplir ses rêves, avait conjuré les esprits malfaisants de qui elle était captive. Maintenant, elle était forcée de convenir qu'elle ne pouvait même plus se retracer en souvenir la physionomie de l'étranger. Et Théobald seul, disait-elle, était vivant dans son cœur. Alban et Théobald étaient fermement convaincus que la véritable folie qui avait trouvé l'esprit d'Augusta était complètement dissipée et rien ne s'opposait plus à l'union. Othman n'avait plus que deux mots à dire pour conclure sa narration lorsque Maria, jetant un cri étouffé, tomba évanouie de son siège dans les bras de Blücherth, qui s'était promptement élancé. Le baron se leva saisi d'effroi. Othmar courut aider Blücherth et tous deux portèrent Maria sur le sofa. Elle était raide et pâle comme un cadavre. Toute trace de vie avait disparu de son visage convulsivement crispé. « Elle est morte ! Elle est morte ! » cria le baron. « Non, dit Othmar, c'est impossible. Il faut qu'elle vive. Alban viendra à notre secours. »« Alban, Alban, peut-il donc ressusciter les morts ? s'écria Bickert. À l'instant, la porte s'ouvrit et Alban entra. Avec sa démarche composée solennelle, il s'approcha silencieusement de la jeune fille évanouie. Le baron le regardait en face d'un œil ardent de colère. Personne ne pouvait parler. Alban semblait ne voir que Maria. Il fixa son regard sur elle. « Maria, qu'avez-vous ? » dit-il d'un ton imposant. Une légère contraction agita ses nerfs. Alors il saisit sa main, et sans cesser de la regarder, il dit « Pourquoi cette épouvante, messieurs ? Les battements du pouls sont faibles, mais réguliers. Je trouve cette chambre pleine de vapeur, il faut ouvrir une fenêtre. Maria se remettra aussitôt de cette attaque de nerfs insignifiante et nullement dangereuse. » Bickert fit ce qu'il demandait. Maria alors ouvrit les yeux et son regard tomba sur Alban. « Laisse-moi, homme effroyable, je veux mourir au moins sans tourment !» murmura-t-elle avec des sons confus, et cachant, pour échapper au regard d'Alban, son visage dans les coussins du sofa, elle tomba dans un profond sommeil, comme le témoignaient ses lourdes aspirations. Un sourire singulier, presque effrayant, passa sur les lèvres d'Alban. Le baron quitta impétueusement sa place. Il paraissait prêt à se livrer à une sortie violente. Alban le regarda fixement, et d'un ton à moitié sérieux, où perçait évidemment une certaine ironie, il dit « Soyez tranquille, monsieur le baron, la petite est un peu impatiente, mais quand elle se réveillera de ce sommeil bienfaisant, ce qui aura lieu sans faute demain matin à 6 heures, qu'on lui donne 12 de ses gouttées, il ne sera plus question de rien. » Il présenta à Otmar le petit flacon qu'il avait tiré de sa poche et quitta la chambre à pas lents.